Peut-être avez-vous remarqué dans l'oraison d'introduction de cette messe, hein, qui est après la prière eucharistique, c'est la prière la plus importante de l'Eucharistie, hein, ce qu'on appelle la collecte, qui rassemble toute la prière de l'Église et de chacun de nous. Eh bien, nous avons demandé, parce que le prêtre prie au nom de toute l'Église, nous avons demandé à Dieu de nous donner une sainte joie. Donne à tes fidèles une joie sainte, parce que nous avons été sauvés. Et ensuite de donner la joie éternelle. Donne à tes fidèles une joie sainte dès maintenant. Alors bien sûr, nous le savons, le chrétien accueille, en accueillant le salut dans sa vie, en accueillant Jésus-Christ dans sa vie, en rencontrant Jésus-Christ, eh bien, entre dans une joie nouvelle qu'il n'a pas connue, qu'il ne peut pas connaître autrement que par cette rencontre personnelle et ce salut donné. Hein, c'est la joie de Pâques, qui explose dans le chant de l'Alléluia, que nous entendons à chaque messe au moment de la proclamation de l'Évangile. Voilà, cette joie-là, nul ne peut nous la ravir, nul ne peut nous la prendre, et nul ne peut non plus nous la donner en dehors de Dieu lui-même. Et cette joie, il nous faut la préserver, l'accueillir, la préserver et l'entretenir, parce que, voilà, les soucis de ce monde, comme dira Jésus dans un passage de l'Évangile, les soucis de ce monde, eh bien, peuvent étouffer la joie de la foi. Hein, et c'est vraiment ce qui arrive dans l'Évangile de ce jour, où l'on voit Jésus est chez lui, dans son entourage habituel. Il doit donc dire cette parole forte que nul n'est prophète dans son pays, mais surtout, c'est les personnes qui sont là, eh bien, sont dans l'incapacité d'accueillir la joie de la foi, hein, puisqu'ils ne se laissent pas rejoindre vraiment par Jésus, ils pensent le connaître. Et si nous entendons cet évangile, nous qui connaissons Jésus, eh bien, c'est parce que nous pouvons nous mettre plus ou moins dans cette attitude. Nous pouvons dire que quand nous venons à la messe, c'est déjà très bien de venir à la messe, hein, merci, mais nous pouvons venir en venant à la messe, eh bien, finalement, il ne va rien se passer en fait. Je vais à la messe comme une obligation, ce qui est déjà bien, hein, encore une fois, hein, déjà d'obéir à ce que nous demande l'Église en se disant, bah, c'est bien de le faire. Ça, c'est... Mais par contre, il nous faut aller plus loin, il faut dépasser l'obligation rituelle pour entrer dans une véritable expérience de Dieu, se laisser nourrir par le Seigneur, découvrir que le Seigneur a de quoi nous apprendre. Hein, le rite hebdomadaire dont nous vivons, eh bien, ce rythme-là, nous en avons besoin, et nous avons besoin de rencontrer Jésus. Mais nous pouvons donc être, comme de l'Évangile, dire, ben, oui, on connaît Jésus, on a l'habitude de le rencontrer, rien ne nous étonne, rien ne nous émerveille, rien ne nous réjouit vraiment, hein, et d'être un peu blasé spirituellement, même spirituellement. Et c'est là que nous sommes invités à demander vraiment cette grâce de renouvellement continuel. Et en fait, la messe dominicale, la messe, le jour du Seigneur, chaque semaine, est là pour raviver en nous la joie de croire. À la fois notre foi et la joie de croire. Et le dimanche, il est une assèse, qui est celle du temps pascal, que j'ai pu partager il y a quelque temps pendant le temps pascal. La joie, le dimanche, il y a une joie, la joie de la foi, la joie de la résurrection qu'il nous faut réviver. Et il y a donc une assez spécifique qui est de refuser le recroquevillement sur sa propre tristesse, de refuser de se laisser enfermer dans sa propre tristesse. Et nous voyons d'un côté le fait que dans l'Évangile, Jésus n'arrive plus à éveiller la foi et donc la joie. Et de l'autre côté, nous avons entendu dans la seconde lecture de c'est Saint Paul qui parle, eh bien, nous pouvons être enfermés par nos propres misères. Hein, et la misère intérieure, hein, cette écharpe dont parle Saint Paul, hein, on ne sait pas ce que c'est, tant mieux. Ça permet de mettre derrière plein de choses, hein, qui peuvent nous rejoindre dans nos vies. Mais aussi, les misères extérieures, hein, les épreuves, les événements de la vie, et on peut se laisser, là aussi, renfermer par cela. Et le dimanche, c'est le jour où on refuse ces enfermements, on veut rentrer dans cette joie Cette sainte joie dont nous parle la collecte du début de la messe, cette joie spirituelle qui est le propre du chrétien. Et c'est de celle-ci dont il nous faut témoigner. Et donc, on pourrait développer largement les caractéristiques de cette joie. Hein, cette joie, d'abord, elle prend sa source en Dieu, vous l'avez compris. Et c'est, ce n'est pas la joie d'un sentiment, mais c'est la joie de la foi. Hein, Thérèse de Lisieux le dira aussi. Voilà, c'est la joie de croire. Donc on choisit de rentrer dans cette joie de croire qui n'est pas une joie comme les autres, qui n'est pas liée aux contingences matérielles qui nous entourent. Et cette joie, alors Thérèse de Lisieux, donc un peu dans la suite de saint Paul, dira que cette joie, eh bien notre faiblesse, nos misères finalement, ne sont pas un obstacle, mais bien au contraire. C'est l'occasion de nous plonger en Dieu, de nous remettre en Dieu et d'entendre ce que dit Dieu, le Seigneur dans la deuxième lecture, « Ma grâce te suffit » et de mettre vraiment notre confiance en Dieu. C'est la joie de l'abandon radical, la joie de mettre sa volonté dans le Seigneur et d'accepter ses propres faiblesses comme étant finalement une grâce parce qu'elle nous oblige. Sinon, on reste dans la tristesse. Elle nous oblige à nous mettre en Dieu. Cette joie, nous sommes invités à la puiser dans l'Eucharistie, enfin dans les sacrements, dans la vie de l'Église, dans la prière, mais l'Eucharistie en premier lieu comme lieu source, puis ensuite dans notre vie de prière personnelle. Cette joie, la petite Thérèse, ensuite, explique, elle le décline. Alors, je vous dis encore, j'ai regardé dans le dictionnaire de spiritualité ce que disait... sur la joie, il y a un article sur la joie qui est assez long encore. Et de fait, on parle encore de Thérèse de Lisieux. Impossible de lui échapper. C'est comme ça. Et donc, cette joie, il y a la joie de la grâce de Noël. Cette joie se décline en joie de la charité. Hein, il y a la joie de la foi. On pourrait aussi dire la joie de l'espérance, hein, en croyant que les événements, que tout ce qui se passe autour de nous, même en nous, les problèmes de santé, les problèmes... tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans nos propres vies, qui peuvent vraiment nous appesantir, eh bien, l'espérance nous permet de voir plus loin, au-delà de la difficulté immédiate. Donc cette joie de l'espérance, puis il y a cette joie de la charité. Et Thérèse de Lisieux, il y a cette grâce de Noël que vous connaissez. Noël 1886, elle dit ceci, « Je sentis la charité entrer dans mon cœur, donc l'Esprit Saint, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors, je fus heureuse. » Voilà. Le secret de la joie chrétienne. Depuis lors, je suis heureuse. Hein, et le cardinal Danielou de dire, on peut dire que la joie est une des marques les plus sûres de la présence de l'Esprit. Quand on accueille l'Esprit Saint, quand on accueille la charité, qui est un autre nom de l'Esprit Saint, c'est une des marques les plus sûres de la présence de l'Esprit. Il continue, la tristesse est toujours l'expression de la division. On est partagé entre ce que Dieu veut et ce que l'on veut. On n'est pas complètement en Dieu. Ne soyons pas surpris donc de tristesse qui s'impose à nous, car c'est que nous sommes encore dans un cœur divisé. Alors il y a d'autres caractéristiques de la joie. Saint François parle de la joie parfaite. Alors je vais vous laisser le relire parce que je ne veux pas être trop long. La joie parfaite qui est la joie d'être repoussé de tout le monde et de se dire, ben voilà, finalement, il n'y a que le Seigneur qui est ma consolation. Il dit, c'est ça la joie parfaite. Il y a saint François de Sales qui parle de la joie de la contemplation, de la prière et de la dévotion, hein, de la prière. Ça aussi, c'est une expérience à faire. Et puis enfin, la joie éternelle, la joie de la béatitude que saint Augustin va développer. Voilà. Allez, je voudrais terminer sur un point pas évident, la joie et la souffrance. Là encore, Thérèse fera une expérience très forte à la fin de sa vie. Elle n'est pas souffrir, comme tout le monde d'ailleurs. Voilà, et elle dit ceci à la fin de sa vie. « Si dans mon enfance, j'ai souffert avec tristesse, ce n'est plus ainsi que je souffre maintenant. C'est dans la joie et la paix. Je suis véritablement heureuse de souffrir. » Bon, je vous laisse ça, hein, c'est pas évident. Mais c'est vraiment cette joie que l'on ne puisse pas dans les plaisirs passagers, hein, et tous les spirituels, nous mettent en garde, non pas qu'ils soient mauvais, mais il ne faut pas trouver notre source dans ces plaisirs passagers. On a le droit d'avoir des bons moments, c'est très bien, hein, ça fait partie de notre équilibre même de vie. Mais ce n'est pas là la source. Si on en reste là, voilà, l'accrochage, la difficulté va nous mettre dans une tristesse profonde. Par contre, c'est d'aller puiser à la source, qui est le Seigneur, par l'Eucharistie, par la prière, par une vie de foi, d'espérance et de charité. Et je veux terminer par cette interpellation de Sainte Mère Teresa qui dit « La joie est le filet d'amour dans lequel on attrape les âmes. » Si nous voulons être missionnaires, ben, vivons notre joie chrétienne, entretenons, préservons notre joie chrétienne. Que le Seigneur nous y aide. Amen.